Tous les jeudis, 21h, 22h, c'est Direct à l'antenne. Direct à l'antenne sur les ondes de Couleur FM. Monsieur Olivier et son équipe débarquent au programme. Invités, interviews, rubriques, choc et sexy. Alors, si t'as tout compris, les jeudis, c'est No Limits sur le 97.1. Plus d'informations sur le www.couleurfm.fr.
Et oui, bonsoir à tous et bienvenue dans l'émission Direct à l'antenne sur Couleur FM, bien entendu, il est 21h exactement. Ça fait plaisir de vous revoir les amis, hein. Ça fait un petit moment qu'on s'était 2 mois de vacances. Alors c'est plutôt pas mal on va dire, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué, vous nous avez manqué. Mais là, on est de retour, avec des surprises, on vous expliquera un peu plus de ce qui se passera dans toute la fin, de toute l'année, de tout ce qui va se passer. On va faire des gags, il y a un nouveau générique aussi qui va arriver la semaine prochaine. Il y a pas mal de surprises, mais avant tout, bien entendu, comme je fais à chaque fois, et mon doux vivant, n'attendons pas, bien entendu, que la mort nous trouve du parlant. On en parlera un petit peu ce soir aussi, on vous dira pourquoi exactement. Il est là, il est à la technique, il est toujours célibataire, les filles. Hein. Ça fait 3 ans qu'on dit ça, on n'arrive pas à le caser. Mais on va essayer un jour ou l'autre quand même. Salut Lolo, comment vas-tu, bien?
Oh, bah toujours, et toi?
Ça va, bah écoute, passez de très belles vacances. Hein. On fera un petit tour de table, savoir comment ça s'est passé pour les uns et les autres. Hein. Il est toujours aussi beau, il a le petit bouc, il est sympa, il a la classe. On dirait un petit peu le George Clooney, la française quand même, là, le côté un petit peu espagnol, un petit peu ritano. C'est notre ami Tof, hein, bien sûr, animastar.com. Hein, si vous avez un mariage, une sonorisation.
Voilà, Wasat.
Wasat, yes. Ouais. Et un site, yes, en plus, qui a été fait par creasavoie.com. On peut aller dessus, oui. Il a été fait il n'y a pas longtemps.
Oui, par une jeune femme dynamique.
C'est vrai. Eh ben, on pourra en parler. Tiens,
on va en parler.
Eh ben, elle est là. Elle est là, elle est ravissante. Elle a toujours ce potentiel. Moi, je l'appelle hors antenne le pitbull, parce que ce soir, elle va être calme. Vous allez voir. Amadi, vous avez quoi cet été? Eh ben, je me suis assagi. On va voir. Hein. Mais bonsoir, Sarah. Comment allez-vous?
Bonsoir. Ben, ça va très bien. Merci.
Vous avez pas trop manqué. Vous nous avez pas trop manqué.
Si, non, un ça petit va peu.
C'est vrai.
Ouais, la rentrée.
Contente
c'est
de
bien
reprendre.
Ouais, on est content quand.
Les bouteilles d'eau sont de plus en plus petites, hein, quand même. Hein.
Ben, plus on arrive vers l'hiver, plus la quantité diminue. Voilà,
la quantité, à un moment, a diminué. Effectivement, il y a pas que l'âge. Il est là, il est avec nous aussi. C'est ACDC. Alors, lui, c'est pareil. Alors, voilà, je vous le dis. Là, j'ai mes deux aussi, mes deux meilleurs amis, hein, puisqu'il y a Teuf et Lolo, qu'on se connaît depuis 36 piges. Et Lolo, c'est un passionné aussi de voitures, qui m'a fait aussi connaître l'automobile. On parlera un peu plus longuement, du moins tout à l'heure. Comment vas-tu Lolo, ça va?
Oui, très bien.
Ouais, très bien. Approche-toi un petit peu plus du micro. Voilà, impeccable. Ah, ça non, va,
il
tout marche.
Il a bien parlé, il a bien parlé.
Ouais, c'est vrai, on n'entend pas trop fort. Ça va bien.
C'était vraiment clair et net. Hein.
Je vous le disais, on a des invités les exceptionnels, les uns, les autres. Mais ce soir aussi, encore une fois, puisque je suis aussi un passionné de voitures, d'automobiles, de rallye, de courses de côte. Du trophée Andros, bien entendu, parce que j'ai eu l'occasion de pouvoir y aller. Et là, nous avons monsieur Didier Toral qui est là avec nous, quand même. Franchement, on peut l'applaudir parce que. Mais sincèrement,
bonsoir.
C'est ce que j'adore avec ces mecs-là. Alors, c'est vrai qu'on se connaît. On vous dira mardi, il y a eu séance d'essai. Il y aura pas mal de choses. Voilà. Et puis, il y a une surprise aussi à 21h15 où on aura un invité aussi surprise qui sera là avec nous au téléphone et qui nous parlera aussi en même temps du trophée Andros. Merci, welcome, bienvenue. Didier, donc on voulait savoir justement comment tu as commencé quand tu étais jeune. Voilà, on veut tout savoir.
Ah, déjà, ça démarre mal quand j'étais jeune. Ça va, voilà, non. Il y a une vingtaine d'années en fait que j'ai débuté sur le trophée Andros. On a démarré avec des copains en fait qui m'ont aidé à 100%. C'était très, très amical, très sympa. Puis petit à petit, en fait, je suis monté un peu en grade et puis j'ai gagné. Il y avait plusieurs catégories sur le trophée. J'ai gagné la catégorie promotion. Je ne sais plus en quelle année, je suis désolé. Ouais. Et j'ai gagné la catégorie indépendant, qui était ça en 2010, par contre, ça je m'en souviens. Et ensuite, je suis passé en élite avec toute la clique, hein, c'est-à-dire mes potes, Panis, Lagors, Prost à l'époque, et voilà.
Non, pose là, regarde la caméra, on dirait un gamin qui a trouvé un jouet. Ça y est, ok. Donc ouais, donc ça fait un petit moment quand même, hein, on va parler, donc justement, c'est les rallyes, t'as quoi que t'as fait au départ?
Non.
C'est comment t'as commencé?
J'ai commencé en moto, mais en fait j'ai fait...
En moto?
Ouais, motocross, ensuite j'ai fait un peu en championnat de France d'enduro, et je suis parti bêtement sur la... En fait, avec des collègues, on est allé faire un cours de pilotage sur terre, et s'avérait qu'en fin de journée j'étais assez rapide, chose que je découvrais en fait, et j'ai fait trois challenges que j'ai gagnés. Et le moniteur de, à l'époque, qui s'appelait Marc Vives de mémoire, faisait les 24 heures de Chamonix. Il m'a dit, putain, je cherche un pilote, ça t'intéresse de faire les 24 heures. Alors c'était vraiment la petite équipe sympa. Et j'ai attiré aux 24 heures de Chamonix. C'est la première fois que je voyais, enfin que je roulais sur de la glace avec une 4 roues motrices à l'époque. Et on était 12 ou 13, je crois, à l'époque. Et on a cassé le moteur à la fin. Et voilà, je suis tombé amoureux de ce sport, de la glace, de la glisse. En fait, on a tous tiré un frein à main sur un parking avec des voitures. Hein, on est tous passés par là.
Oui, maman, c'était
les garçons.
Les garçons,
les filles,
mais
il y a
quand même
moi.
Des filles. Ouais. Et en fait, on est parti là-dessus. Et puis, je vous dis, avec une bande de copains qui m'ont aidé, on a démarré et j'ai roulé 20 ans. Ça fait 20 ans que je fais le trophée. Il n'y a que l'année passée où je n'ai pas roulé, mais voilà, c'est reparti pour cette année.
Donc, oui. Ça peut être en fait quelque part un concours de circonstances en fait. Enfin, vous avez la moto.
Ah, mais et complètement. Puis, j'ai attiré là, je savais pas du tout en fait. Et ça verrait que ça me plaît. Quand quelque chose me plaît, je le fais à fond. Donc, on l'a fait correctement. Et puis voilà, ça s'avérait que quelques années après, j'ai gagné la catégorie promotion.
Est-ce que les gars qui sont autour de vous, ils ont des consciences de carrière, non? Parce que vous, vous êtes arrivé comme ça.
Je suis arrivé trop tard, moi, pour faire ma carrière.
Non, mais je veux dire, il y en a qui pour faire ce genre de rallye, il y en a qui ont des ambitions ou des choses comme ça. En fait, vous êtes arrivé comme ça.
En fait, il te faut des ambitions, sinon tu montes pas. Et si à un moment, pour rouler vite sur les courses, ça soit glace ou autre chose, il faut la meilleure voiture. Pour avoir la meilleure voiture, il faut déjà des partenaires qui nous aident. Et ensuite, une fois que tu as la voiture, il suffit pas de monter dedans et la faire rouler. Il faut s'entourer de bons mécanos, après des ingénieurs. Tout ça coûte de l'argent, donc c'est très long à monter. Moi, je suis allé vraiment petit à petit. Et puis, j'y suis arrivé. Alors, aujourd'hui, je suis pas le meilleur, hein, mais je fais partie, je pense, des 10 meilleurs et du pilote sur le trophée. Et voilà, on se marre. Et j'ai vraiment hâte d'y retourner cet hiver.
D'accord. Et là, ça reprend quand, donc, le prochain?
On démarre le 4 décembre de mémoire à Val Thorens. Et là, je vais rouler pour un constructeur qui est Mazda.
D'accord. Et le trophée Andros, c'est vraiment... Donc, c'est par rapport à une marque.
Alors ça, on reviendra justement sur le côté du trophée Andros. Okay. Mais on va d'abord parler plutôt sur le côté du rallye, hein, puisque de savoir ce que c'est le côté de la WRC. Tu as commencé sur WRC tout de suite?
Moi, carrément, je suis allé au plus gros, au meilleur, en fait. En fait, ça faisait des années que je voulais essayer le rallye, mais je voulais le faire dans des bonnes voitures, forcément. Et j'ai eu l'occasion de rouler avec, il y a 2 ans, au rallye de Charbonnières avec une Ford WRC, qui était aussi une voiture du championnat du monde. Et je me suis régalé. Alors, le rallye est complètement différent que la glace. On roule avec un copilote qui nous annonce des notes. Au départ, c'est du charabia, tout ça. C'est compliqué. Il faut vraiment... Aujourd'hui, j'ai 7 rallyes au passif et j'apprends. Je suis en apprentissage, rallye. C'est que ça va vite, ces voitures qui vont très vite. Des notes, c'est assez compliqué. Donc, on essaye de faire beaucoup d'essais pour justement arriver à les battre devant. Aujourd'hui, j'en suis pas capable, à part sur du national. Mais en championnat de France, aujourd'hui, j'arrive pas à les chercher devant. Et je suis vachement frustré. Donc, on fait beaucoup d'essais pour ça.
C'est quoi pour toi d'aller chercher devant? En fait,
je roule pour les gagner, tout simplement. Moi, ce qui m'intéresse,
oui, c'est sûr. T'es beaucoup de secondes en moins, parce que ça marche.
Alors aujourd'hui, sur un championnat de France, on se prend à peu près 2 secondes au kilomètre. Donc, c'est des spéciales qui font à peu près 20 km avec les meilleurs, avec des champions de France. On est bien d'accord. Hein. Voiture égale ou pas vraiment égale, mais aujourd'hui, sur une spéciale, on est à 20-30 secondes derrière et c'est hyper. Alors que j'ai roulé, j'ai attaqué. Le problème, c'est que les notes, c'est vraiment. Un virage est donné sur une note et aujourd'hui j'ai passé d'expérience. En plus j'arrive sur un championnat de France où ça fait 20 ans qu'ils le font parce qu'ils font que du rallye. Moi c'est ma première année, on a droite qu'à 3 passages de reconnaissance. Donc on passe 3 fois avec la voiture tous les jours en fait, on reconnaît, on note. Et forcément il y a un écart. Donc j'aurais toujours je pense cet handicap en rallye en tout cas d'avoir quelques années de moins que mes concurrents devant. Mais voilà après il faut s'accrocher, il faut y croire.
Toujours à fond, on va dire. C'est vrai que tu as commencé jeune. Après, donc, tu avais le côté de la moto. Après, tu es parti sur le côté de la voiture. Et il y a quelle adrénaline, en fait? Quelle adrénaline tu as? C'est d'avoir une voiture puissante comme ça directement dans les mains. Comment tu te contrôles? Est-ce que tu te contrôles déjà, en fait?
Oui, il vaut mieux parce que c'est des voitures qui coûtent très cher. Donc, il faut se contrôler.
Oui, non, mais c'est sûr. Alors, le prix, est-ce qu'on pourra dire le prix d'une WRC ou pas?
C'est très cher.
C'est très, très, très cher, oui.
C'est très cher. En plus, ça m'appartient pas. Mais c'est les voitures du championnat du monde. C'est les voitures neuves. Je sais qu'une voiture neuve comme ça, c'est entre 680 et 800 000 euros.
Voilà.
Tout dépend de la bonne voiture.
Et alors, WRC, qu'est-ce que ça veut dire, alors? Le terme?
Non, c'est l'anglais.
Ah oui, c'est l'anglais, d'accord.
Je me suis engueulé par mes potes, mais qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est des 4 roues motrices, des voitures du championnat du monde avec des moteurs bien spéciaux, avec un châssis. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est rééquipé en fait d'une manière.
C'est vraiment des voitures faites usine. Hein,
ah, d'accord.
C'est vraiment construit par.
Il n'y a pas des boutons spéciaux.
Il y a plein de boutons. C'est des boîtes séquentielles. Plein de boutons. Il y a un ordinateur à bord. En fait, on a tout la. En fait, les ingénieurs, une fois qu'on a roulé, parce que moi en roulant, je peux interroger l'ordinateur, mais ils ont tout sur les roues, à quelle vitesse tourner les roues, les suspensions, la hauteur, le moteur, la température. En fait, je peux même pas dire une bêtise en disant non, c'est pas vrai, je l'ai pas faite. Automatiquement, sur l'ordinateur, ils vont voir que soit j'ai loupé un rapport, soit j'ai accéléré trop fort, soit j'ai rétrogradé les toits. Ils voient tout en fait.
C'est la même technologie que l'iPhone.
Complètement.
D'accord.
Tout à fait.
Ouais, d'accord.
Mais même sur la glace, hein, d'ailleurs, ils le disent souvent. On a les voitures du trophée sont un peu la F1 de la glace. On travaille aussi avec les ingénieurs et on travaille beaucoup sur les acquis en fait. Et ce qui nous donne beaucoup de références, c'est de savoir qu'on peut s'aligner avec d'autres pilotes éventuellement. Et puis on regarde où on a plus patiné, où on a freiné. Si on peut aller chercher le freinage, on va dire 5 mètres plus loin pour gagner toi. On travaille beaucoup avec les ingénieurs. C'est très intéressant et les séances d'essai sont très intéressantes pour ça.
Ça demande beaucoup de concentration, beaucoup de.
Ouais, bah vaut mieux.
Ouais, c'est clair. Non, mais c'est vrai que.
On peut dire un petit peu la rapidité. Ça joue beaucoup sur le côté de la rapidité, par exemple en rallye, ou alors en accélération, ou.
Surtout sur la motricité. Alors la glace, c'est la motricité. On charge vraiment. On a 4 roues motrices, 4 roues directionnelles.
Ça, c'est sur le trophée.
Sur le trophée, alors on va bien signaler les deux.
Ouais.
Le trophée Andros, c'est 4 roues motrices. Les voitures font 1000. Une tonne à peu près, je crois, pour 360 chevaux. 4 roues motrices et 4 roues directrices. C'est-à-dire que les roues avant braquent, mais les roues arrière aussi, dans le sens inverse de la roue avant. C'est comme un Fenwick, vous voyez, quand on braque les roues. De façon à qu'on puisse tourner très tôt, en fait, parce qu'on fait pivoter la voiture avant le virage. Pour de façon à être dans le virage, pratiquement en ligne droite. Et déjà, bien souvent, dans le virage, on a déjà passé 2 rapports. Et en fait, ça fait un peu élastique. On va arriver dans le virage, on va reculer un peu et on va repartir. Et en rallye, en fait, c'est pareil. Moi, je roule avec des 4 roues motrices, mais il y a des voitures qui sont en 2 roues. Et on va travailler la courbe moteur, on va travailler la liaison seule, en fait. Dans les deux cas, c'est la liaison seule. C'est que les roues, en fait, tout le temps tractent.
C'est sûr. C'est vraiment, ça demande beaucoup de technicité.
Oui, complètement, oui. À ce niveau-là, oui.
Sarah, vous intéressez un petit peu à la course automobile
Non, je suis une fille, pas vraiment.
Il y a des filles qui s'intéressent.
Ouais, pourtant, il y a pas mal de...
Il y a des filles qui roulent, tout à fait, ouais.
Bah, j'ai ma voiture, ça me suffit.
Non, mais c'est vrai. C'est une passion, quelque chose, par exemple.
Bah, regarder ça à la télé, je trouve ça ennuyant, en fait.
À la télé, c'est...
Ah, on y voit très peu.
Ouais, c'est plus
sympa. C'est ce qui est un peu dommage. C'est ce qui est un peu dommage en même temps, quoi.
Mais bon, à chaque fois, voir. Non, j'ai du mal à me... Bah, le sport en général.
Oui, c'est pas trop votre, votre truc. Lolo, toi, tu...
Moi, c'est un peu... Je suis pas une fille, mais presque, pour le coup.
Ouais.
Non, c'est vrai que moi, comme Winston Churchill, no sport. Par contre, pour information, j'ai quand même vérifié ce que voulait dire WRC. Grâce à Monsieur Internet. Hein. Mais oui. En fait, c'est simplement World Rally Car.
Bien sûr.
Dire voiture de rallye pour le monde.
Voilà, quoi. Mais ça ne veut pas vraiment dire. La question qu'il me posait n'était pas tout à fait ça, en fait.
D'accord.
Ah, mais quand on est une fille, on interprète les questions différemment, vu que t'es un peu une fille.
Ce que j'ai trouvé sur le net.
Peut-être que tu pourrais trouver une meuf. Allez, 21h10, Didier Toral, qui est avec nous. En deuxième partie, justement, on parlera après du trophée Andros. On va s'écouter un petit son, les amis, hein, l'histoire de se poser un petit peu, pas des questions, mais de savoir, de faire un petit briefing. Parce que là, je trouve qu'on est un petit peu mou, là, pour commencer, hein, quand même. Hein. On n'a pas révisé. Lolo,
c'est
on ne parle pas beaucoup. Il a peur.
J'attendais mon temps.
Ah, t'attendais ton temps.
C'est la rentrée, on est studieux, on est concentré justement comme un pilote de rallye, on est concentré sur l'émission, on va pas...
Allez, tu finis sur une bonne note.
Surtout ne pas déraper.
21h10, on s'écoute un petit son, on se retrouve dans 3-4 petites minutes, à tout de suite.
get my guitar, sunglasses on, so light it up, and never stop, it's how we ride, coming up until we die.
Oui, allô.
Allô.
Oui. Bah écoutez.
Bonsoir.
Bonsoir, Monsieur Jean-Pierre Pernaud. Hein, merci d'avoir accepté l'invitation.
Donc, oh, mais je suis ravi si c'est pour parler de sport automobile.
Ah ben bah, voilà.
J'adore ça.
Effectivement, c'est pour parler de sport automobile. Donc, bah voilà, vous avez Didier qui est avec nous, hein, bien
salut
sûr.
Salut Jean-Pierre.
Comme je dis, c'est plus un nom, c'est une réputation, hein, Monsieur.
Salut Didier, je le vois pas souvent Didier parce qu'il est toujours devant moi en cours.
Ça va, tu vas bien?
Ben oui, ça va oui, bien, ça j'attends va bien. Avec impatience que le froid arrive,
voilà, on est bien
que la glace revienne et qu'on puisse, que je puisse être une fois devant toi, au moins une fois dans la saison.
Bah, écoute, on en parlera à Val Thorens.
Peut-être, ce sera difficile, moi je suis toujours derrière, je suis un petit amateur dans le Conseil Andros. Et je m'amuse comme un fou voilà. Tous les ans depuis 10 ans maintenant avec mon fils Olivier qui lui est devant. Avec voilà. Didier d'ailleurs.
Ça fait combien de temps, Jean-Pierre, que vous faites le trophée Andros là?
Ben, si on réussit à compléter notre budget pour pouvoir nous engager cette saison, ça va être la 10e saison en trophée thermique, c'est-à-dire sur ces voitures de 350 chevaux, 4 roues motrices et directrices. 10e saison, et avant on avait fait une autre saison en ce qu'on appelle les sprint cars, ce sont des petits bolides amusants sur lesquels on a commencé une saison, puis après on s'est pris au jeu et on a voulu rentrer parmi les grands dans ce trophée thermique avec des grands champions comme Didier Toral que j'ai jamais réussi à battre. Mais j'y arriverai peut-être une fois dans ma vie, à 75 ans peut-être.
Ah ben,
on en reparlera.
Mieux vaut tard que jamais, Jean-Pierre.
On sait jamais. Déjà là, cette année, c'est un peu... Je ne vais pas faire toute la saison, puisqu'on va faire un équipage à 3, avec Olivier toute la saison, et puis moi une partie de la saison, en alternance avec Margot Lafitte, qui revient avec nous cette saison. Ça,
c'est la fille de Jean-Pierre?
La fille de Jacques.
Jacques Lafitte. Oui, oui. Voilà. Donc là, vous êtes vraiment impatient alors de reprendre ce trophée Andros. En deux mots, ça vous est venu comment, vous, pour partir au trophée Andros? Est-ce que vous avez déjà fait d'autres courses avant ou...
Le sport auto, c'est une vieille histoire dans la famille Pernaud. Mon papa était pilote de rallye dans les années 50-60. Il faisait les rallyes du nord de la France, le rallye de Flandre-Hainaut, le rallye du Touquet, le rallye de Rouen, le rallye de Picardie à l'époque. Il a été l'un des fondateurs du NASA, qui est l'ASA Picardie. Mon frère aîné a fait des rallyes un peu plus tard, à la grande époque des Cooper S, des Austin Cooper S, dans les années 70 à peu près. Entre 65 et 70-15, c'était l'époque où Bernard Darniche courait sur une NSU, etc. Donc j'ai été bercé dans mon enfance et dans ma jeunesse par l'amour du sport auto. Moi je faisais l'assistance de mon frère dans ses rallyes la nuit, l'assistance était géniale à l'époque, les rallyes duraient 2-3 jours, ça a changé un petit peu maintenant, donc j'ai été bercé dans cette ambiance de sport auto. Et puis après, quand mon fils aîné Olivier, après moi j'ai lâché le sport auto, je suis passé dans le journalisme, j'ai fait d'autres choses, puis quand mon fils a eu 12-13 ans, Olivier, je l'ai amené faire du karting au club de TF1, j'ai fait du karting avec lui pendant quelques années, quand il est passé devant moi, j'ai arrêté d'en faire, je chronométrais le fiston, et puis un jour il a été sélectionné pour faire une saison de, comment ça s'appelle, l'Autosport Academy maintenant. Ça s'appelait la Formule Campus à l'époque, c'est-à-dire c'est le premier niveau de formation en monoplace de la fédération, avec toute une saison sur plein de circuits, je l'accompagnais. comme tous les papas des pilotes qui avaient 18-20 ans. Et puis voilà, ça m'a ramené au bord des circuits avec, je fais quelques essais de monoplace, etc. Et puis après, Max Mamers un jour a appelé Olivier parce qu'il l'avait remarqué en Formule Campus pour lui proposer de faire une course sur la glace. Je suis allé les voir et j'ai trouvé que ces mecs sur la glace étaient complètement marteaux. Et ça m'a donné envie, une envie folle de les rejoindre et je les rejoins l'année suivante.
Et donc vous êtes plus maintenant dans le côté, on va dire, pas trop compétition, vous êtes plus dans le côté de plaisir, de prendre vraiment du plaisir, d'être avec votre pote, voilà, comme...
Mais je pense que Didier va dire la même chose que moi, on n'est pas dans l'esprit compétition avant, et dès qu'on met un casque, on devient un peu con, et on essaie de passer devant les autres.
Je crois que c'est un peu dans tous les sports, Jean-Pierre, ça.
Donc je crois qu'on se prend vraiment au jeu. Puis en plus, sur la glace, c'est une technique de pilotage dont Didier vous a parlé ou va vous parler, qui est tellement particulière, qui est tellement unique, que quand on a la chance de pouvoir avoir des budgets permettant de faire des courses ou d'être repéré par des écuries pour les faire, c'est inouï, c'est un pilotage qui est tellement particulier, tellement différent des autres, voilà, qu'on comprend pourquoi des grands pilotes comme Prost à un moment s'y est mis. Et il a vite appris, il est passé devant tout le monde pendant longtemps. On comprend comment un type comme Romain Grosjean maintenant, qui est notre meilleur pilote de Formule 1 aujourd'hui, ben Romain qui a fait une saison il y a quelques années en Andros, aime bien revenir une fois ou deux dans la saison malgré ses obligations de Formule 1. Il est venu l'année dernière une fois, je crois qu'il va revenir une fois cette année. Donc ce sont des pilotes, des grands pilotes qui trouvent des sensations très particulières sur la glace. Sébastien Loeb est venu rouler avec nous, Didier s'en souvient, l'année dernière. Il a vite appris, d'ailleurs j'ai fait une course devant lui, j'étais content en première course, j'étais passé devant Loeb. Mais dès la deuxième, moi ça fait 10 ans que je refaisais, en une course, lui il est passé devant, ça c'est sûr. Mais on s'amuse beaucoup et puis c'est vraiment l'esprit de compétition qui domine parce que, comme dans tout sport automobile, ce sont des sports qui coûtent beaucoup d'argent. Parce qu'il y a des ingénieurs, il y a des mécaniciens, il y a des pièces à changer, il y a des boîtes de vitesse qui cassent, il y a parfois des casses un peu plus grandes, donc ça coûte de l'argent. Donc forcément, on le fait sérieusement, on le fait au mieux pour nos partenaires, nos sponsors, pour les ingénieurs qui ont bossé sur les voitures, les mécanos. Donc on essaie de se donner au mieux sur la piste, à différents niveaux. Alors ce qui est drôle, c'est que comme d'une année sur l'autre, ça fait 10 ans que je fais l'Andros, mais pratiquement tous les pilotes font de l'Andros depuis au moins 10 ans, c'est-à-dire que tout le monde progresse au même niveau, donc je suis, moi, tous les ans, 18e.
Ouais, mais...
Voilà, donc ça monte. Je fais aujourd'hui les temps que faisait Prost il y a 10 ans. Mais je suis toujours 18e, parce que les autres, si tout le monde progresse, tout le monde progresse.
Non, mais Jean-Pierre, arrête, à chaque fois tu dis ça, tu as vachement progressé, tu as compris plein de choses. Après... Il faut persévérer, mais tu plaisantes.
Moi, ce que je sens, ce que ne sentent pas la plupart des pilotes de l'Andros, c'est un peu l'âge. Bon, je suis pas le doyen.
Oui.
Il y a un pilote un peu plus âgé que moi qui s'appelle Hervé Knapik, qui a d'ailleurs lâché l'année dernière. Je sais pas s'il va revenir cette année.
Ouais.
Cette année, la saison dernière, j'étais le doyen, puisque Knapik n'a pas roulé. Il est un peu plus âgé. Mais c'est vrai qu'au fil des années, quand même, sur la glace, ce sont des courses de sprint, très rapides. On court pas beaucoup. On court quelques secondes, on fait 26 tours de 800 mètres dans tout un week-end, en 5, 6, 8 fois, et donc on monte dans la voiture, paf, 3 minutes, 2 minutes après, on a fini notre séance, c'est au suivant. Donc c'est des courses de sprint extrêmement fatigantes physiquement pour des gens de mon âge. Donc c'est pour ça que cette saison, l'année dernière, j'ai eu beaucoup de mal à faire la saison entière, d'autant plus que le lundi matin, je dois être à mon bureau à 7h30, à peu près.
Pour présenter le journal de 13h, faut pas oublier, Jean-Pierre.
De 13h, donc voilà, l'Andros, pour moi, c'est une aventure aussi professionnelle, parce que je quitte mon bureau le jeudi ou le vendredi, je me fais remplacer par Jacques Legros le vendredi quand il y a des courses le vendredi. Donc je quitte le journal à 13h30, à 13h40, je suis en caleçon dans le parking de TF1 pour mettre une tenue d'hiver, je fonce à la gare, à l'aéroport, avion ou train, voiture de location, on arrive à 11h du soir dans une station de sport d'hiver, dans une tempête de neige ou dans le froid, etc. À 7h du matin, on se retrouve comme des cons à marcher sur la piste pour essayer de repérer la piste et pas faire trop de bêtises. Et puis après, toute la journée, on roule. Hop, on va rouler 2 minutes le matin, 2 minutes à 14h, 6 minutes après, une finale en 8 tours le soir. Ça se termine à 11h du soir. Le lendemain, on refait ça. Puis le dimanche après-midi, je refais le voyage inverse. J'arrive chez moi à 11h du soir. Je me lève à 6h. À 7h30, je suis au bureau, complètement lessivé. Et le journal de 13h, ça ne va pas se voir.
c'est tout à fait
c'est un peu fatigant. C'est un rythme de 7 week-ends d'hiver
qui sont
et c'est magique parce que tous les ans on râle, on dit ouais, le règlement est mal fait, c'est compliqué, puis tous les ans tout le monde revient.
C'est tout à fait
vous
ça.
Vous pourriez abandonner le journalisme pour vous consacrer entièrement au sport automobile ou non, c'est vraiment un hobby?
C'est vraiment un hobby. Autant mon fils est dans le sport auto complètement, il est team manager d'une écurie qui fait aussi des courses que j'ai faites avec une compétition qui s'appelle la Fun Cup.
Et qu'il a gagné la semaine dernière, on peut le souligner, à Magny-Cours.
Et puis cette année, il est engagé dans le championnat de France GT et il a gagné une course à Magny-Cours. Ils ont gagné une course à Spa juste avant l'été. Et Olivier, avec Raymond Narac et Sébastien Dumel, sur une Porsche GT3, c'est ça, extraordinaire, sont leaders du championnat de France de GT, et pour mon fils, c'est une aventure fantastique, parce qu'il avait jamais rêvé, il rêvait de faire ce championnat GT. Il a été convié par l'écurie Matmut IMSA, je crois, IMSA Matmut. Ils l'ont amené comme troisième, ils lui ont proposé d'être le troisième pilote cette saison. Et il fait une saison extraordinaire, et puis, il s'amuse énormément sur la piste, et avec Narac et Dumez, ils sont leaders du championnat de France. Devant quelques anciens vainqueurs des 24 heures du Mans et autres qui participent à ce championnat, ou d'autres, David Hallyday et d'autres.
Voilà. Et ça me fait très plaisir qu'il soit devant.
Et c'est chouette de voir Olivier à ce niveau. Je ne sais pas si tu en penses, Didier. Mais
je suis allé à Magny-Cours il y a 15 jours quand il était, mais je ne suis pas allé le voir, mais ça m'a vraiment fait plaisir.
Ça fait plaisir de le voir comme ça. Puis il fait plein de courses, puis le team manager, je lui dis, il a des visions de voitures, une dizaine de voitures en Fun Cup, en Lamera.
L'Amera
Cup, et en midjet, c'est une formule qu'a créé d'ailleurs le champion de la GAF, qui est Jean-Philippe Dérault, le Toulousain Jean-Philippe Dérault, qui gagne depuis que Prost est parti, il est toujours devant, et avant ils étaient toujours à la bourse tous les deux. Donc c'est Jean-Philippe qui a créé une compétition qui s'appelle la midjet, en rapport qualité-prix, une course de circuit assez extraordinaire, et voilà, donc Olivier fait quelques courses là-dessus aussi.
Bah écoutez, merci d'avoir passé, c'était vraiment aussi très enrichissant de pouvoir parler automobile, parce que c'est vrai qu'en un mot, on n'en parle pas beaucoup quand même des rallyes, du trophée Andros à la télé, c'est ce qui manque un petit peu.
À part au journal.
Mais c'est vrai.
Moi j'essaie d'en parler un petit peu. Le sport auto, ça a toujours eu peut-être pas mauvaise presse, mais moi ce qui m'épate, c'est que quand on va voir des courses de voitures, ce week-end il y a eu à Loéac en Bretagne une épreuve du championnat du monde de rallycross. Il y avait 40 000 spectateurs dans ce petit village de 600 habitants en Bretagne. Et d'ailleurs, il y a un Français qui fait le trophée Andros avec nous, qui s'appelle Jean-Baptiste Dubourg, qui a terminé sur le podium troisième d'une épreuve du championnat du monde de rallycross. Moi, je suis vachement fier parce que je le connais par la glace. Il a commencé tout petit avec nous et il s'éclate en rallycross. Quand on voit le nombre de spectateurs sur ce genre de compétition, quand on voit le succès extraordinaire des 24 heures du monde, avec les 200, 300 000 personnes qui s'entassent là-bas et qui vont s'éclater pendant 24 heures, c'est fou les 24 heures du monde. Quand on voit l'engouement populaire sur le sport automobile, quand on voit le monde sur le bord de la route du rallye Monte Carlo, quand on voit le monde sur la bord de la route de tous les rallyes, quand nous, sous le trophée Andros, on voit les 30 000 spectateurs à Saint-Dié-des-Vosges qui nous regardent en train de tourner sur un petit anneau de 800 mètres, je trouve que c'est vraiment un sport extrêmement populaire, que les médias, c'est vrai, on parle pas beaucoup. Moi, j'essaie d'en parler un petit peu au journal de 13h. Quand on a un champion comme Romain Grosjean en Formule 1, on aurait envie de soutenir le sport auto. Puis ce serait bien que Peugeot revienne dans le championnat du monde d'endurance. Ce serait bien que Renault, ça semble être en bonne voie, mais que Renault revienne en Formule 1. C'est les marques françaises, c'est bien qu'elles portent le sport automobile dans le monde entier. Et j'ai toujours regretté que Peugeot se retire du championnat du monde, j'ai toujours regretté que Renault se retire de la Formule 1. Et c'est un sport qui est immensément populaire. Et voilà, alors ceux qui le pratiquent s'amusent, prennent des risques insensés parfois en course, jamais insensés, toujours calculés. C'est vraiment un beau sport que j'aime, moi, et que j'ai découvert il y a longtemps grâce à mon papa, il y a 50 ans que j'étais tout petit. Et j'ai toujours aimé cette ambiance assez formidable du sport auto, et je suis pas le seul. J'aimerais qu'on en parle davantage dans la presse. Le trophée Andros, la presse régionale en parle beaucoup, la presse nationale pas beaucoup, sauf le journal de 13h de TF1.
Bizarre.
Mais voilà, donc c'est le sport auto, il faudrait qu'on en parle davantage. Merci de nous permettre d'en parler.
Eh bien écoutez, c'est
un grand champion. Tu le refais, Didier, le trophée cette année.
Oui, je serai là.
Ça, c'est bête. C'est j'aurais gagné.
Désolé, Jean-Pierre, je vais être là.
Non, mais c'est... Une fois, on a le temps, moi, parce que j'ai une anecdote. Une fois, c'est drôle, j'ai failli faire un podium au trophée Andros. On était à Isola 2000 et moi j'étais arrivé la veille. Et il y a eu dans la nuit du jeudi au vendredi une énorme tempête de neige. La route a été bloquée. Et la plupart des pilotes étaient bloqués en bas.
En bas. Moi j'étais en bas.
En haut. Toi t'étais en bas.
Moi j'étais en bas.
Moi j'étais en haut et on était deux ou trois. Mais deux ou trois parmi les mauvais. Et on se regardait en disant
ils vont pas monter.
S'ils n'arrivent pas à monter, on va enfin faire un podium. On était que trois.
Et tu sais quoi, ma Marcel était en haut. Je roulais pour Marcel à cette période-là. Et Marcel me dit de toute façon, si ça ne marche pas, tu montes à pied.
Marcel Tarès.
Il y avait 7 km entre les deux.
C'était où ça? C'était à quel...
Isola 2000.
Isola 2000, d'accord.
Après, tout le monde a réussi à monter en convoi. C'est un peu l'aventure aussi, le trophée Andros.
C'est un peu, ouais, tout à fait, ouais. Comme Andorre, il y a deux ans, la tempête de vent qu'on a eue, tu te souviens? Que les tentes s'envolaient.
Andorre, tempête. Il y a des tempêtes, parfois, il y a des tempêtes étonnantes, donc de vent, avec des trucs qui s'envolent.
Voilà, tout à fait.
C'est l'aventure, et puis le soir, sur la piste, il y a des compétitions acharnées qui se jouent au dixième ou au centième de seconde entre les premiers. C'est magnifique à voir. Même pour moi qui suis derrière, c'est fantastique. Et quand on fait des courses en peloton, il y a un mélange de pilotes amateurs, professionnels ou semi-professionnels. Et je sais pas, moi j'ai fait une finale une fois dans le même groupe qu'Alain Prost. Certes, il était lui en première ligne et moi en dernière. Bon, il y avait 10 voitures entre les deux. Mais se dire qu'on est au départ d'une course avec Alain Prost. Oh là là, qu'est-ce que j'étais fier. Une fois, j'ai fait une course aussi avec Harry Vatanen. J'étais en première ligne d'une finale. Je pars à côté d'Harry Vatanen, cet immense champion de rallye de sur glace autrefois, il y a quelques années. Et j'étais à côté de Vatanen en première ligne. Je me dis, bon, ben, je vais le suivre, je vais essayer de le suivre, ça va me faire une bonne leçon. Et au départ de la course, paf, je pars devant lui. Bon, j'ai appris après qu'il avait oublié de passer la première et qu'il était au point mort, donc il a raté le départ. Et toute la course, j'ai tenu mon volant, je me dis, c'est génial, Harry, c'est un type charmant, il va pas me rentrer dedans. Donc j'ai fait une course superbe, et puis voilà, j'ai gagné cette finale ce jour-là. Et puis à l'arrivée, je me retourne pour dire merci à Harry. Je voyais ses phares dans mon pare-choc arrière pendant toute la course, mais je fermais bien les cordes et tout. J'étais génial, j'ai bien piloté, mais tranquille, parce que je savais qu'il ne me rentrerait pas dedans. Et à l'arrivée, je me suis aperçu que c'était pas lui, c'était l'un des petits fous du plateau. Si je l'avais su, c'était Gilles Stiévenard. Je sais pas si tu te souviens.
Oui.
Et si j'avais su que c'était Gilles Stiévenard, j'aurais eu tellement peur au premier virage que je suis arrêté.
Oui, t'as raison.
C'est psychologique aussi, le sport.
Je connais, je l'avais rencontré au Stade de France, Gilles, sur la même finale. Ça n'avait pas duré longtemps.
Ça fait dans tous les sens. Enfin voilà. Donc c'est le trophée Andros, c'est ça, c'est à la fois de l'amitié,
la famille et la compétition.
Une sorte de petite famille où on est 25 pilotes ou 20 pilotes, avec des motards qui sont extraordinaires, parce que les compétitions de moto, et eux, ce sont des fous, des barges absolues. Une fois au trophée Andros, je vois un type qui est un copain de pilote de moto qui avait du, je sais plus comment il s'appelait, qui avait du mal à pousser sa moto pour aller vers un départ. Je lui dis ça va, et oh, il me dit non, la semaine dernière je me suis pété une clavicule et trois côtes. Et il faisait la course quand même.
Ah, c'est vraiment une passion.
Ah, c'est vraiment une passion.
Et en moto,
folie.
Ouais, ils ont froid, les gars. Il fait moins 20. Moi, je leur tire mon chapeau. Aimer, En moto, je leur tire mon chapeau. Même en cross-car, d'ailleurs, toi, t'as fait une année.
En moto, non.
En cross-car. Tu l'as fait en cross-car, c'est
en
pareil.
En cross-car, oui, j'ai fait une saison.
Ça caille dedans.
En cross-car, on est là, on a un petit grillage qui nous sépare de la glace, etc. Quand on est en pré-grille et qu'on attend les départs, parfois pendant 20 minutes, il y a des fois où au moment du départ, on ne sent plus ni les bras, ni les mains, ni les pieds, parce qu'on est complètement gelé.
C'est pas très pratique pour piloter quand même.
Et au moins dans les voitures thermiques, on est tranquille, parce qu'au moins dans les voitures, on a chaud.
Voilà, tout à fait. Il fait très chaud même.
Et il y a un public de folie, sur certaines courses.
Ah oui, Superbès, Saint-Dié.
À Lens, Envercors,
Superbès,
Saint-Dié-Vosges.
Oui, c'est un public de folie.
Superbès aussi, pour parler de la passion. Si je suis trop bavard, vous me dites. Hein.
Non, Jean-Pierre, non, franchement.
Pour vous parler de la passion des pilotes, la passion des spectateurs, Superbès, tu dois t'en souvenir, Didier, il y a une année, il y a 4-5 ans, un moment de la course, on faisait des qualifications, c'est des voitures partent une, deux ou trois par trois sur la piste pour faire le meilleur tour et après on fait des classements. Et au milieu de ces qualifications, il y a une nappe de brouillard énorme qui est tombée sur la piste, visibilité 5 mètres, le directeur de course arrête tout, et il y avait, avant ça, il y avait sur les, au bord de la piste, 5000 personnes au moins, assis sur les talus, en plein froid, il faisait moins 20 degrés, du fond, on n'était pas bien du tout, il y avait 5000 personnes entassées là, etc. Et le brouillard tombe, Aucune, rien pendant 2 heures. Pendant 2 heures, on a arrêté. On était, nous, dans les paddocks, dans les structures, à l'abri. On attendait que ça se passe. Puis d'un seul coup, il y a eu une petite levée de brûlure. C'était un peu levé. Donc là, ils ont dit, allez, on va repartir. On va redémarrer la course. Les voitures ont commencé à rouler une par une, mais on voyait rien au-delà de 10 mètres. Ouais. Et à un moment, il y a eu une mèche, je sais pas, il était minuit. D'un seul coup, le brouillard s'est levé, les 5000 personnes étaient toujours là.
Oui, oui, ah bah, super baisse.
Ça m'a impressionné ce truc.
Mmh. Ah ouais, mais
complètement. Mais ils sont restés là pendant 3 heures. Avec la glacière. Et c'était quelque chose d'extraordinaire.
Ah ouais, c'était comme un concert de Justin Bieber, quoi, en fait.
Oui, ça doit être ça. Oui. On attend qu'ils reviennent.
On peut faire, puisque Jean-Pierre, on parlait justement des courses de côte, des rallyes. Moi, je voulais faire à Jules Bianchi un petit rip, et puis aussi à Lionel Régal. Lionel Régal qui a fait aussi le trophée Andros,
oui,
il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous a quittés. Bon, voilà, ça fait un parti aussi un petit peu de la course, malheureusement. Bon, on va rester dans le côté positif.
C'est bien de penser à eux, mais c'est vrai que c'est un sport qui reste dangereux. On le sait quand on le pratique. À Andros, il n'y a jamais eu d'accident, sauf une fois pour cette pauvre Margot Laffitte.
Margot, ouais,
qui me remplaçait il y a 2 ans à Val Thorens, et qui a tapé tout droit dans un mur de glace et qui est passé pas loin parce qu'elle s'est pété 2 vertèbres cervicales. Ouais. Mais il y a très peu d'accidents sur la glace. On va pas vite. On va maximum, Didier, 120, 130, 140 dans une descente 140, à Val Thorens.
Voilà,
et le reste du temps, c'est vraiment du pilotage, de la glisse, des sensations. Mais c'est vrai qu'en Formule 1, ils prennent des risques de folie, du premier au dernier. Mais je les admire tous.
Tu sais, je me suis lancé en rallye en WRC. Et c'est un truc de malade. J'ai essayé, c'est très compliqué. Ça va très vite aussi entre les arbres.
D'ailleurs, vous faites
le rallye. Moi, ce que j'aime bien sur la piste, c'est qu'il y a des. Ou sur la glace, il y a de la glace sur le côté. Sur la piste, il y a des rails de sécurité ou des.
Du sable, du gravier, ouais.
Mais en rallye, il y a des arbres. C'est pour ça que le rallye m'a toujours fait peur.
Ouais, c'est vrai que ça impressionne un peu. Mais une fois que t'es parti, une fois qu'on roule, on n'y pense plus. Mais il y a quand même beaucoup plus de risques.
Et vous faites souvent des frayeurs? D'ailleurs.
Pardon ?
Vous faites souvent des frayeurs en voiture, en pilotant ?
Oui, on se fait forcément des frayeurs. Par moment, soit on fait une petite erreur, soit dans un groupe de voitures, il y en a une qui de à l'avant, qui devant ou derrière ne réagit pas comme on le souhaiterait ou comme on imagine. Paf, une voiture qui arrive en travers, ça peut arriver. Faut freiner, ça m'est arrivé une fois sur l'Andros. Voilà, la voiture devant moi qui part en tête, qui tape dans un virage, je ne l'ai pas vue. Le temps que le commissaire lève son drapeau jaune, j'étais à fond, paf, j'ai tapé dans la voiture. Bon, on se fait des peurs comme ça, de temps en temps, qui sont pas bien méchantes au trophée Andros, sauf pour le matériel, c'est vrai. Ouais. Quand on pense aux mécanos qui doivent tout réparer, qui font un boulot de folie pour que la voiture roule une demi-heure après. Mais c'est... Oui, on se fait des frayeurs. Je fais des frayeurs, même en fin de cup, ça va pas très vite. Mais j'ai fait participer aux 24 heures de Spa plusieurs fois en fin de cup. On roule à 200 à l'heure, à peu près, en fin de cup. Mais dans le bas du fameux raidillon de Spa... Pour ne pas lever le pied, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. Alors moi, à chaque fois, je levais. Voilà, et au bout de 6 heures de course, on me dit, mais attends, mais ne lève pas le pied. Donc, je mettais mon pied gauche sur le pied droit pour ne pas lever le pied. J'enfonçais la pédale d'accélérateur. J'appuyais sur mon pied droit avec le pied gauche pour ne pas lever la pédale. Et ça passait très bien,
T'as plus de caméra, là.
Puis de temps en temps, il y a une voiture qui part en tonneau, il y a une voiture, mais ces voitures, vous savez, quand on parle des accidents de la route, etc., c'est dramatique, il y a eu 350 morts sur la route au mois d'août, c'est dramatique, mais c'est vrai que dans la formation des conducteurs, on devrait aussi apprendre les gens à piloter, à réagir. Quand un pneu éclate, on devrait apprendre à tout le monde comment réagir. Or, les gens, ils ont leur permis de conduire, on ne sait pas comment réagir quand un pneu éclate à 130 sur autoroute, boum, on se tue. Ou alors on fait des conneries, on peut avoir tous un accident, bien sûr, mais je pense qu'au niveau de la formation, on ne fait pas assez d'efforts. Au niveau de l'équipement des voitures, il y a eu des progrès extraordinaires avec l'ABS, avec ne serait-ce que des essuie-glaces au départ, etc. Donc la baisse de la mortalité routière, elle ne vient pas des radars, elle vient de l'équipement des voitures, de l'équipement des routes aussi, des radars, à mon avis.
Les conducteurs, avant tout.
Et puis des conducteurs, et puis ils sont peut-être plus responsables, je ne sais pas, c'est vrai qu'on roule un peu moins vite qu'avant. Les radars, c'est souvent des pièges à cons. Hein. Excusez-moi, je le dis aussi nettement que je pense, mais moi, j'ai perdu 2 points dans ma vie à 51 km/h au lieu de 50.
Ouais.
J'ai envie de leur dire, attends, vous feriez mieux de vous occuper des accidents de la route.
Moi, je dis rien, je care.
Il y aurait de quoi dire.
Vrai. C'est vrai, quoi. Donc, il y a tout ça. Puis en plus, il devrait y avoir davantage de circuits, il devrait y avoir davantage de formation des jeunes conducteurs sur des voitures, sur des circuits pour apprendre à réagir en cas de situation difficile. Moi, le trophée Andros m'a sauvé la vie plusieurs fois sur de la glace ou sur des plaques de verglas sur la route.
C'est clair.
Je pense que Didier et les autres pilotes du Trophée Andros aussi.
Bien sûr.
On apprend, voilà, on a tendance à une plaque de verglas, paf, les mecs ils freinent, ben ils sont morts.
Même en tant que simple conducteur.
Plus ça glissait, plus il faut accélérer, point barre, voilà. Doucement. Mais,
c'est ça.
Donc voilà, donc c'est des réflexes qu'on peut avoir, qu'on peut apprendre. On peut apprendre aussi aux gens à conduire sur la glace ou l'hiver.
Il y a des écoles de pilotage d'ailleurs qui existent.
Il y a des écoles de pilotage, mais je pense qu'elles devraient être ouvertes à davantage de gens et il devrait y avoir des examens. Le permis de conduire ne devrait pas être donné à des gens qui savent faire un créneau.
Mais je suis bien d'accord avec toi.
Et la baisse des accidents, elle vient d'équipements. Les industriels ont fait beaucoup d'efforts. Il y a des progrès extraordinaires sur les voitures pour qu'elles glissent moins, qu'elles dérapent moins, qu'elles freinent mieux, etc. Et tout ça a contribué à la baisse du nombre de tués sur les routes, heureusement. Là, cet été, il y en a eu plus. Depuis le mois de juillet, il y en a plus. Cela dit, on nous sort des statistiques et à mon avis, on va pas tarder à nous sortir des mesures encore plus contraignantes avec encore plus de radars pour rapporter encore plus d'argent. Mais c'est pas ça qui diminuera les accidents.
Eh bien, écoutez, Jean-Pierre, ça a été un plaisir vraiment de vous avoir. Et
mais quand vous voulez, hein.
Ben, avec plaisir. C'était vraiment un plaisir, sincèrement, comme d'avoir aussi Didier. On a deux personnes de l'exclusivité ce soir et c'est ce qui nous fait plaisir aussi dans l'émission, et justement, Didier, en parlant live.
Didier est l'un des meilleurs pilotes et l'un des plus sympas du Trophée Andros.
Et puis, est-ce que j'aime vraiment...
Et toi aussi, mon pauvre, la simplicité que tu as, c'est génial de rouler avec vous. En fait, c'est ce que je disais sur le trophée. On roule avec des gens comme toi qui sont vraiment très sympas, très abordables, et qui ne se prennent pas la tête et on rigole, on se marre. Et c'est ça, ouais. C'est ça qui est bien.
Puis moi, j'aime bien le sport auto parce que derrière mon casque, on ne me reconnaît pas. De temps en temps, je me dis, non, j'ai fait une connerie, ils ne me reconnaissent pas. Bon, c'est vrai, il y a mon nom en gros sur l'auto, mais... on s'amuse bien en tout cas.
Je t'ai perdu.
Bon, très bien. C'est bon. Hop. Ah, Didier, c'est bon le...
Non, je suis là.
Plus Jean-Pierre.
D'accord. J'entends plus Jean-Pierre là. Moi, je
l'entends. Bon, à bientôt, je vous entends.
Si, il nous entend, il nous entend.
Jean-Pierre, je t'entends plus. Écoute, si tu m'entends, rendez-vous à Valto.
À Val Thorens, c'est le premier week-end de décembre.
Aussi, voilà, le 4, je crois, 4 ou 5. C'est bon, ça marche.
Bon, okay. Et un petit message en passant, si par hasard. Et vous avez des entreprises et vous voulez faire un peu de pub sur les autos, je cherche encore des partenaires pour la saison.
Écoute, j'en parle avec les miens des fois que... Avec plaisir,
ça serait sympa. On n'a pas encore bouclé.
Moi non plus, mais je suis déjà engagé.
Oui,
comme chaque année d'ailleurs.
La grande bagarre de tous les pilotes automobiles amateurs, c'est de trouver les budgets.
Complètement.
Merci beaucoup Jean-Pierre, au nom de Direct, du moins d'On part en live et de Couleur FM bien entendu, puisque c'est la radio régionale. Merci à vous d'avoir répondu à notre appel, à notre invitation. Merci aussi à Nathalie, hein, votre femme qu'on avait reçue il n'y a pas longtemps. Vous êtes vraiment des gens extraordinaires. Ouais. Surtout, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter que vous finissiez 17e cette année?
Derrière moi.
Et surtout, c'est une petite dédicace parce que là, ça sera perso. Mais je regarde, vous savez, tous les journaux qu'il y a, je regarde que le journal de 13h. Et avec vous, franchement, ne changez rien. J'aime bien les petits tacles des fois que vous mettez, hop, comme ça, en loose day, comme on dit en langage jeune, et qui passe très, très bien. Et continuez ça, franchement, parce que ça manque à la télé. Des gens vrais comme
vous. C'est gentil, merci beaucoup.
Merci encore, merci à vous.
Au revoir.
À bientôt.
Au revoir.
Salut Didier, au revoir. Salut.
21h40, on est toujours bien dans l'émission en direct. Oui, ne rêvez pas, vous êtes bien avec Didier Toral et Jean-Pierre Pernaud qu'on avait au téléphone dans l'émission On part en live. Donc là, on a parlé, il est plutôt sympathique.
Magnifique.
Ouais, sympa,
ça,
hein.
Magnifique. Il est comme ça en vrai.
Mais voilà. Et c'est ça aussi, les gens humbles. Et on va revenir justement sur Didier. Donc on a parlé du rallye, on parle du Trophée Andros. Tu as aussi des partenaires?
Ah bah oui, bien sûr, heureusement, sinon je ne pourrais pas rouler aujourd'hui. Et je remercie en fait tous mes partenaires, notamment Carré de Soie, qui est un grand centre commercial qui se trouve à Vaulx-en-Velin. D'ailleurs, samedi, en fait, on a la voiture qui est en exposition, la Mini WRC, avec les jeux de chez Ellipsis, en fait, des jeux vidéo où les gens viennent, pourront venir faire les jeux. Et les trois premiers gagneront un week-end sur le Trophée Andros. Super. Et des bons d'achat.
On a quelqu'un pour toi à l'antenne. Bien. Oui, c'était le 09-79-21-33-77, j'avais pas dit dès le départ. Oui, allô, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes d'où? Vous appelez comment?
Ah, alors moi, je m'appelle Nadia.
Oui.
Et j'appelle de l'Isère. Et donc, voilà, donc je voulais poser une question à Didier Toral.
Il vous écoute.
Bonsoir, Didier.
Bonsoir.
Alors, donc, bah, écoutez, moi, je suis une grande, grande fan de Didier.
Ça s'entend.
J'ai eu l'occasion de le connaître il y a 2 ans sur le trophée. Et j'ai trouvé que c'était quelqu'un d'extraordinaire parce que très, très, très humble et un grand pilote, hein, donc des techniques parfaites. Et donc, j'aimerais savoir si je peux être sa présidente de son fan club.
Oh là 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 là, ça c'est...
Mais avec plaisir.
Je serais honorée d'être la présidente du fan club de Didier Toral.
Avec plaisir, Nadia. Avec grand plaisir.
Oh, bah, c'est bien gentil. Je suis ravie que Didier fasse ce trophée Andros de cette année. On va avoir la chance de voir encore, encore de belles choses. Donc, ouais. Vous avez beaucoup parlé là, pendant la soirée des sensations des pilotes. Moi, j'aimerais juste faire vous expliquer un petit peu.
30 secondes, on n'aura pas plus. Je suis désolé, Nadia, 30 secondes pour, avec vous. Allez-y.
Oui.
En tant que spectatrice. C'était juste dire que c'était vraiment des sensations époustouflantes qu'il faut absolument vivre parce que c'est génial de voir cette glace, de voir cette technicité, de se demander si ça va taper ou pas. C'est vraiment magnifique.
Vous aussi, des fois, on se demande.
Que tout le monde puisse vivre ça.
Ouais, voilà. C'est gentil, c'est très gentil.
Eh bien, écoutez, merci beaucoup à vous, Nadia. Continuez à être la première fan, hein, bien entendu. Oh, je pensais que c'était moi le premier fan, mais non. Et maintenant, il y a une fan, et puis en plus, elle est...
Oh là là.
Il y a une fan club, en
et
plus.
Et moi, je préfère Nadia que toi. Hein.
Ah, bah écoute, c'est pas grave, je me rattraperai autrement. Merci, Nadia, de nous avoir appelé. Si vous voulez nous appeler, c'est 09 79 21 33 77. Nous sommes bien en direct avec Didier Toral. Donc, on parlait, des partenaires, oui, de la team.
Alors oui, donc j'étais en train d'expliquer donc le Carré de Soie qui est un centre commercial à Vaulx-en-Velin sur lequel la voiture sera en exposition toute la journée de samedi. Enfin, il y aura d'autres voitures de rallye d'ailleurs, il y en aura trois avec des jeux, donc des vidéos et les gens peuvent venir et faire ces jeux. Donc il y aura une course, ça dure 3 minutes je crois le jeu. Et les trois premiers gagneront un week-end sur une course du trophée d'Andros en VIP et des bons d'achat du centre commercial. Je voudrais remercier, donc j'en profite, c'est
bien
parti.
Bien sûr, bien sûr.
Justement, Bricomarché de Morestel Passin, qui sont des gens qui sont exceptionnels et qui m'aident à petits moyens, mais avec le cœur, ça c'est très sympa. Humaine Énergie, les boissons énergétiques, qui sont les concurrents de Red Bull, c'est un partenaire qui me suit aussi depuis longtemps. Le groupe DSL, donc je fais partie un peu du groupe sur le débosselage de voitures sans peinture, c'est de la nouvelle technologie sur laquelle... j'apprécie beaucoup et j'adore ce procédé. On fait de belles choses. 6e Avenue, BMW Mini qui m'aide aussi. Je vais pas oublier le team Saint-Éloc avec lequel je vais rouler cet hiver. Et puis Bosian Racing qui aujourd'hui me suit en rallye et puis qui m'aide. Et puis une petite pensée à mon Fred qui est mon copilote et avec qui on a des bons moments, des fois des moins bons, hein, n'est-ce pas mon Fred mardi dernier.
Ça fait partie de la course.
Mais voilà, qui est là et qui me suit. Et voilà, sans tout ce monde-là, moi, je ne serais pas là. Et juste une petite pensée, parce que voilà, on parlait de Lionel Régal tout à l'heure. Ouais. J'ai une petite pensée d'un copain qui s'est tué le week-end dernier au rallye du Mont-Blanc, qui est Fred Comte, qui a eu un grave accident avec sa femme, qui était sa coéquipier. Et voilà, je voulais une petite pensée à Fred, parce que c'était un personnage que j'aimais bien.
C'est vrai que malheureusement, ça fait partie, comme on dit, de la course. Là, je voulais juste revenir sur la journée, parce que tout le monde m'a demandé comment ça s'est passé. Alors, on peut le dire. Alors, je suis parti avec Didier, hein, donc on est parti du côté de Turin.
Hein. Turin, ouais, côté de...
On est parti, on peut le dire.
Chez Bosian, en fait, faut tout faire. Bien souvent, je vais laver la voiture.
On salue la team aussi en même temps, hein, parce que c'est vrai que tu as des super mécanos. Le boss aussi, il y avait aussi l'ingénieur, donc on est parti
Bosian.
Au camion.
Bosian, c'est une équipe qui a été champion du monde en préparation, donc c'est une équipe qui est très connue, et ce que j'aime chez eux, c'est justement, c'est très sympa, c'est familial, et puis voilà, des fois, vu que j'ai tous mes permis poids lourds, comme mardi, t'as pu faire du camion, parce qu'il m'a dit, prends le camion parce que j'ai pas mon chauffeur, donc voilà, je suis tout chez Bosian, je conduis la voiture, je conduis le camion, non mais c'était sympa, et puis voilà, j'ai emmené Olivier avec moi dans le camion.
Oui, et puis il n'y a pas que dans le camion, puisqu'après on a fait les essais l'après-midi. Alors moi, c'est vrai que je voulais faire aussi un petit coucou en même temps à Simon Ménard qui a fini quand même 59e sur plus de 160 au rallye de Chartreuse cette année. Là j'y étais aussi franchement et c'est un mec, je te le présenterai un jour. Franchement il est super, je lui fais un petit coucou. Et à Eric Potier aussi qui fait les peintures qu'on a reçu pas mal dans l'émission .moto.com.
Oui, donc qui a fait des dessins de mes coffres,
tu connais. Ouais, voilà,
c'est quelqu'un qui travaille très très bien.
Il est même, je dirais, excellent, effectivement. Et puis donc, on est arrivé là-bas en camion, on a posé les voitures. Alors moi, j'étais comme un gamin. Hein. Et puis, il a fait les tours, il a fait chauffer les pneus, il a fait chauffer la bagnole. Et puis après, il m'a emmené. C'est moi qui ai chauffé. C'est assez violent, franchement. Mais quand on est avec un pilote, on peut dire après en sortie, c'est 181, c'est 160. Là, c'était à combien? J'ai pas trop regardé. Mais
WRC, je crois que la mienne plafonne à 212 ou 227 km/h, je sais pas trop. Là, on était sur une base qui était quand même assez sinueuse. Donc, je pense que le maximum, après, j'ai pas regardé sur les acquis, mais je pense qu'on était à 160, tranquille. Mais c'est une petite rue qui est la largeur de la voiture, en fait, très sinueuse. Et voilà, c'est jamais droit, il y a du vertical.
C'est un Teddy alors.
Faut pas qu'il y ait une voiture en face.
À Turin ? Ah non, non, la route est bloquée.
Ah, la route est bloquée.
Départemental. De Lyon. Que vers Mornan, c'est Turin, non, pas en Italie.
Ah oui,
en fait, c'est une, on travaille avec des sociétés qui ont des arrêtés préfectoraux pour l'année, en fait, et les routes de campagne en fait sont bloquées. Il y a des gens qui sont avec des extincteurs, personne passe. Il y a quelqu'un qui bloque devant, quelqu'un qui bloque derrière. À chaque maison, à chaque carrefour, il y a quelqu'un, au cas où quelqu'un sorte de chez lui et qu'il prenne la route avant que j'arrive, ça peut faire désordre.
Ça vaut mieux pas.
Si on n'est pas dans le bon sens, dans le même sens, c'est bon, mais si on se croise, ça passe pas. Donc voilà, on roule sur des sécurités. D'accord. En fait, la route est vraiment fermée. Et à partir de là, on travaille avec les ingénieurs sur les réglages, sur les temps. En fait, comme je vous disais tout à l'heure, dans la voiture, tout est donné sur ordinateur. Je peux voir mon temps, la vitesse. Alors, c'est de la vitesse, je m'en fous un peu à combien je passe. Ce qui m'intéresse, c'est le chrono, en fait. Donc, on travaille sur le chrono. Et on travaille là-dessus et on change des pneus. Là, on a travaillé ce que je vais faire, le rallye du Haut-Lignon le week-end prochain. Et donc, on est parti faire une séance d'essai sur une route qui correspond plus ou moins à ce que je vais rouler à Haut-Lignon. C'est dans le 43. C'est le Puy de Dôme de mémoire.
Oui, il y a Issingeau et tout ça.
Voilà, Issingeau-Tans. En fait, c'est vraiment des petites routes. Et alors, moi, je ne suis pas allé reconnaître encore, parce que je vais aller reconnaître justement dimanche, quand on a vraiment des jours de passage pour faire la reconnaissance. Mais j'ai vu que c'était vraiment des routes pas très larges sur les vidéos. Et bon, on a essayé de travailler un petit peu sur ce genre de route pour trouver déjà les réglages, pour avancer au maximum, pour qu'on soit bien au départ. Quoi.
Parce qu'elle n'est pas grande, mais large.
Elle n'est pas grande et voilà, c'est pas. Non, mais c'est un petit peu dangereux. C'est vrai que sur ces routes-là, quand on fait des essais, on se permet des fois d'essayer des choses sur des réglages et ça peut être dangereux parce qu'on peut sortir et on peut vite se faire mal. Donc on n'est pas en course, donc on essaye de faire les choses bien, mais ça arrive.
Donc dans notre montagne, il y a 3 ans, c'était Solberg qui était venu avec le team Subaru.
Oui, mais ils viennent. L'OB est venu souvent. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de monde qui vient. On a plein de bases. Moi, je vais soit là, soit sur.
Aigbelette.
Aigbelette, ouais. On a des bases aussi sympas Aigbelette pour le Charbonnière, pour le Lyon Charbonnière. On va s'entraîner pas mal là-bas aussi.
D'accord. C'est compliqué d'organiser des essais, de bloquer les routes ou non? C'est plutôt.
Il faut se prendre 15 jours à l'avance. Et puis voilà, on travaille avec une. C'est des associations généralement qui s'occupent de ça, qui font ça toute l'année. Et on prend rendez-vous, on dit, voilà, tes jours, je voudrais faire des essais. Et à partir de là, il faut qu'on réunisse les ingénieurs. Après, compliqué, non, pas spécialement.
Vous n'avez pas de refus
Non.
Il nous reste 4 minutes, les amis. Ça passe très, très vite.
Très vite. Hein,
rapide.
Est-ce que le Monte Carlo, ça vous tente?
De sûr que ça me tente.
Ah.
On verra. Le championnat du monde, la Suède me tente énormément.
Tes prochains projets, il te reste quoi?
Prochain. Alors, j'ai un gros projet depuis 2 ans, c'est de battre le record du monde de saut avec une voiture de course. Ça, c'est quelque chose où ça fait 2 ans que je travaille et que j'espère bien y arriver. C'est-à-dire qu'on va essayer de battre le record qui est de 85 mètres en longueur. C'est à peu près sur un départ sur tremplin. Il est arrivé sur un tremplin, en fait. Et grosso modo, il faut être à 180 en haut du tremplin. Et on fait une centaine de mètres en l'air et on se pose 100 mètres plus loin.
Il faut des bonnes suspensions, là.
Ah oui, il faut un bon ingénieur, déjà, parce que je veux bien le faire, mais je veux que ça soit bien fait.
Dans les règles de l'art. T'as une dédicace à faire? T'as un petit bonjour à faire à quelqu'un?
Bisous à tout le monde.
À toute ta team.
Bisous à Nadia.
Nadia,
c'est
ce que j'allais dire, Nadia. Ouais. Et d'ailleurs, la preuve que les femmes, elles aiment bien les règles.
Mais il y en a, bien sûr.
Ah bah oui.
Mais
énormément.
Et vous savez, j'ai fait des baptêmes bien souvent et je me dépêche. Et bien souvent, en fait, quand on emmène les femmes, en fait, c'est vachement plus sympa qu'un mec. Alors, pas parce que je suis plus. Simplement, le gars, c'est bon, je sais faire. Et une femme, en fait, a toujours le sourire. Et puis, si on lui explique quelque chose, elle va nous écouter. Elle va essayer de comprendre.
C'est ça, une femme.
C'est un peu le mot de la fin. Oui, ça va. Allez, merci, merci vraiment d'avoir été avec nous. Tous les pilotes, toutes les personnes, on remercie vraiment tout le monde. Surtout, soyez au Trophée Andros, bien sûr, pour aller encourager Didier Toral. Allez aussi encourager Jean-Pierre Pernaud, toutes les personnes qui seront bien entendu au Trophée Andros. C'est vraiment un spectacle, on n'en parle pas assez. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, les amis. Je voulais faire aussi un petit coucou, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à Simon Ménard et aussi à Maxime Ménard, en même temps, qui est son copilote. Et qu'on pourra retrouver le 20, hein, Simon Ménard, il faut le noter, on pourra le retrouver le 20, à la course de côte de Saint-Savin. C'est la course de côte.
Je vais y aller en tant que spectateur.
Ah, tu vas y aller?
Je vais, le samedi, je roule à Olignon et le dimanche, j'ai des copains qui roulent et que j'aurais promis que je passerai.
Ah, bah écoute, c'est cool, on se verra sûrement là-bas alors. Donc voilà, pour répéter que la journée de mardi qu'on a fait ensemble, c'était vraiment une journée extraordinaire. Je vous montrerai des photos. C'était vraiment.
Des étoiles plein les yeux.
Ah, ouais, mais franchement, comme un gamin. Eh oui. Il est l'heure de se quitter. Merci encore vraiment, Didier. Vous pouvez retrouver le podcast de l'émission demain sur www.couleur-fm.fr. Nous, on se retrouve la semaine prochaine. Surtout, sortez couverts. Et quoi? On finit sur une bonne note? Non? C'est bon? Non, note, parce que vous n'avez pas suivi. Note, t'as suivi
quand
même.
Ah oui, les notes, oui. Gauche à fond, droite à fond.
Ah, ça, c'est bon. Alors, c'est vrai qu'on pourrait faire 2 heures d'émission, hein, mais il y aurait tellement de choses à dire. Mais Didier, tu pourras revenir?
Avec plaisir.
Je voulais juste demander quelque chose. Est-ce que tu veux être parrain de l'émission en parent live?
Avec plaisir.
Toute l'année.
Sans problème, avec plaisir.
On a un parrain, voilà, c'est Didier Toral. Eh ben écoute, c'était vraiment un grand plaisir. On va continuer à suivre sur les réseaux sociaux. On peut suivre de partout Didier Toral, de partout sur tous les réseaux sociaux. Vous allez voir les vidéos, c'est un truc de fou. Nous, on se dit à la semaine prochaine. Merci Sarah, super. Merci Lolo, merci.
Merci à vous.
Merci aussi Lolo. Merci Tof, merci à toutes les personnes qui ont été connectées, merci aux personnes qui ont appelé. Je fais un petit coucou à Alex, à Mathis, à toute ma famille, à ma femme, à mes enfants, à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à vous tous et on se dit à la semaine prochaine. Salut, bye bye.
Bye bye.
À bientôt.
Ciao, ciao.